C'est un geste symbolique fort qui a été souhaité par Séoul, souhaité par le gouvernement du Sud, qui veut marquer sa volonté de paix à l'égard du Nord. Et les mauvaises langues diront que c'est cela que vise M. No-Moo-Yoon, c'est-à-dire le président de la Corée du Sud, les élections qui vont avoir lieu en décembre. Et le gouvernement n'oublie pas qu'il y a 4 ans, c'est sur des promesses de baisse de tension dans la péninsule coréenne qu'il a été élu. Je parlais de mauvaises langues, elles pourront même parler d'une sorte d'entente tacite entre Pyongyang, qui a bien sûr intérêt à ce qu'il y ait des gens compréhensifs à son égard en poste à Séoul, et ce gouvernement de Séoul, justement, qui s'entendent pour donner un certain éclat à ce sommet.
Dans le même temps, l'opposition conservatrice sud-coréenne est critique vis-à-vis de cette ouverture.
L'opposition sud-coréenne a été par le passé beaucoup plus virulente à l'égard de Pyongyang, soulignant les défauts que nous connaissons tous de ce régime, l'absence de démocratie, pour ne pas parler de tyrannie, l'inefficacité économique, etc. Et il y avait là un danger pour cette opposition de droite. Il y a une aspiration assez profonde à la paix, et on le comprend chez les Sud-Coréens. Alors, ils viennent de déclarer qu'ils étaient d'accord avec la Sunshine Policy, c'est-à-dire la politique de main tendue de Séoul vers le nord.
Alors, ce sommet avait été reporté une première fois au mois d'août officiellement en raison des graves inondations qui touchaient la Corée du Nord. Mais au fond, Pyongyang préférait peut-être attendre d'être en position de force.
En effet, Pyongyang est en meilleure posture aujourd'hui puisque ses partenaires dans les négociations à 6 la félicitent de ce que on est tout près du but. Et puis, c'est une façon de confirmer aux négociateurs à 6 la bonne volonté actuelle du gouvernement de Pyongyang.
Et ce fameux traité de paix dont on parle tant, est-ce qu'il pourrait voir le jour?
C'est chose possible sans que, malheureusement, les relations Nord-Sud ou les relations Corée du Nord-États-Unis changent beaucoup. La Corée du Nord reste un État avec une direction unique, une idéologie unique et obligatoire, une économie collectivisée. La paix, oui, la réunification, on peut y penser, la voir à l'horizon, mais nous n'en sommes pas là. Les différences, aussi bien sur le plan du niveau de vie économique entre le Sud et le Nord et sur le plan des institutions, sont encore très différentes au Nord et au Sud du 38e parallèle. En Corée du Nord, on vous demande plus que le silence, on vous demande une adhésion au pouvoir. Il y a des dizaines de milliers de statues, des centaines de milliers de banderoles et de slogans, la police est partout, il y a des camps de concentration.
Donc, des échanges économiques accrus peut-être, mais pas de réunification.
Oui, et même, je dirais, les échanges, il faut être prudent. Qu'est-ce que les malheureux Nord-Coréens ont à échanger? Très peu de choses. La situation économique au Nord est catastrophique et le Nord reste un pays soutenu à bout de bras par son allié chinois et par son voisin sud-coréen.
Pierre Rigoulot, vous êtes plutôt pessimiste.
On a envie de croire que quelque chose va changer, qu'ils vont s'ouvrir à quelques réformes qui aideraient la population à vivre un peu mieux. Mais l'histoire de la Corée du Nord, c'est celle de recul au dernier moment, de coups fourrés, et je ne peux m'empêcher d'être sceptique.